Frères et sœurs bien-aimés, en ce premier dimanche du temps du carême, nous suivons le Seigneur dans le désert, dans ce désert figurant notre monde, dans ce désert figurant nos pauvretés. Nous méditons ce matin l'Évangile selon saint Marc. L'Évangile selon saint Marc est extrêmement court, c'est comme une flèche. Il va à l'essentiel et on retrouve très très régulièrement le mot « aussitôt ». Saint Marc, qui était tout enfant et qui a rencontré le Seigneur Jésus, c'est sans doute à sa famille qu'appartenait le Cénacle, comme le Jardin des Oliviers. C'est encore Saint Marc qui ouvrira la porte à l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres. Saint Marc va à l'essentiel. Son évangile est rapide, mais ce qu'il a retenu, c'est que lorsqu'on rencontre le Seigneur Jésus, aussitôt, il se passe quelque chose. Aussitôt, le malade est guéri. Aussitôt, Pierre, Jean, Jacques, André laissent leur barque et vont à sa suite. Aussitôt. Voilà ce qui doit être un maître mot pour notre temps du carême. Nous sommes en compagnie du Seigneur Jésus et aussitôt, nous voilà consolés et pacifiés parce que nous ouvrons notre cœur dans le désert de nos épreuves, dans le désert de ce monde, à cette bonne nouvelle, à celui qui est l'Évangile, à celui qui est le règne de Dieu, notre Seigneur Jésus le Christ. Ce très court Évangile, donc, a commencé par nous rappeler que le Seigneur Jésus vient de recevoir le baptême de Jean-Baptiste. Pour développer ce baptême, il nous faut aller voir ce que nous rapporte l'apôtre saint Jean, notamment cette discussion entre le Seigneur et Jean-Baptiste. Enfin paraît Jésus sur les bords du Jourdain, quelle espérance! Et Jean-Baptiste, qui baptisait les pécheurs avec de l'eau, leur disait « Viens après moi, derrière moi, celui qui est plus puissant que moi, je vous baptise avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » De telle sorte que lorsque le Seigneur paraît sur les bords du Jourdain, quelle espérance! Jean-Baptiste est étonné. Comment, Seigneur, vous voulez que je vous baptise? Mais c'est vous qui devez me baptiser. Pourquoi? Parce que le Seigneur est sans péché. Le Seigneur n'a jamais eu l'idée du mal. Le Seigneur est l'incarnation du bien, c'est ce qu'affirme saint Luc dans les Actes des Apôtres. Il a passé en faisant le bien. Et pourtant, le Seigneur Jésus veut recevoir le baptême. Et voilà l'inversion qui va se produire dans le Jourdain. Si le pécheur entre dans le Jourdain, fortifié, encouragé par la prédication décisive de Jean le Baptiste, dans le désert lui aussi, c'est parce qu'en entrant dans le Jourdain, il décide de se laver de ses péchés, de commencer une nouvelle vie, de passer déjà sur l'autre rive pour se rapprocher de Dieu et mener une vie plus juste, c'est-à-dire plus ajustée à Dieu qui fait alliance avec nous, pauvres pécheurs. Pourtant, le Seigneur Jésus, qui n'est pas pécheur, veut rentrer dans le Jourdain. Eh bien, voilà qu'il va s'identifier aux pécheurs, même davantage. Il ne va pas seulement s'identifier aux pécheurs, il va s'identifier au péché. Quelle grandeur de Dieu! Nous l'entendons dans cette exagération tout orientale, dans l'épître de saint Paul. Le Christ, nous dit saint Paul, Dieu, sous-entendu le Père, l'a fait péché pour nous. Non pas, chers enfants, que le Christ ait été à la pêche. Aucun rapport. Le Christ, Dieu, l'a fait péché pour nous. Non pas que le bon Dieu ait dit « Tiens, Seigneur, mon Fils, fais donc des péchés pour être comme eux. » Non. Il devient le péché. Et sur le bois de la croix, nous contemplons alors l'anéantissement du péché et sa conséquence, la mort par la résurrection très sainte du Seigneur, et sa victoire définitive au dernier jour sur le mal qui nous gangrène, qui nous érode, tels des brocs bien solides qui pourtant finissent par s'étioler. Le Christ, Dieu l'a fait pécher pour nous. C'est ce que reconnaîtra mystérieusement Jean le Baptiste sur les bords de Jourdain. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sur notre cher pays Toy, nous prenons grand soin de nos agneaux. Si nous savons ce qu'est l'agneau, ne nous trompons pas de culture. Dans la tradition biblique, chaque année, pour la fête de Pâques, chaque famille offrait, selon ses moyens, un agneau, un demi-agneau, en sacrifice pour le pardon des péchés de l'année écoulée. On prenait les agneaux parfaits de nos troupeaux, c'est un peuple d'éleveurs, comme jadis nos bergers du pays Toy. C'est un peuple d'éleveurs qui offre alors la bête parfaite, l'image, la préfiguration du Seigneur qui est l'agneau sans tache, Makula, l'agneau immaculé et saint qui vient offrir par son sacrifice le pardon des péchés pour l'année écoulée. Mais Jean le Baptiste ne se trompe pas. Cet agneau n'est pas pris du milieu des hommes, du milieu des troupeaux de notre monde. C'est l'agneau qui nous vient de Dieu pour venir enlever une fois pour toutes le péché du monde. Voilà ce que reconnaît Jean-Baptiste. Le Fils est entré dans le Jourdain. Il est identifié au péché. Il est cet agneau qui, par le sacrifice du bois de la croix, va venir enlever ce mal, ce péché et la conséquence de nos péchés, la mort. Voilà pourquoi, en ce temps du carême, nous sommes dans le désert. Dans le désert du silence. Dans le désert de ce silence où doit se creuser le désir de Dieu. Et le paradoxe, c'est que aussitôt que le Seigneur est baptisé, reconnu comme l'agneau de Dieu, nous trouvons le petit mot « aussitôt » si cher à saint Marc, aussitôt l'Esprit-Saint le pousse dans le désert. Voilà que l'agneau de Dieu est là. La Trinité Sainte, lors du baptême, est manifestée. La voix du Père, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », cette voix se fait entendre. L'Esprit-Saint, comparable à une colombe, apparaît au-dessus du Fils. La Trinité Sainte est manifestée. Le Fils est dans le Jourdain, le Père dans cette voie, dans la hauteur du ciel, et l'Esprit-Saint sous la forme spirituelle de cette colombe. Et pourtant, aussitôt, il faut aller dans le désert. Dans le désert, pour être tenté par Satan, nous dit saint Marc. Drôle d'idée de Dieu le Saint-Esprit que de pousser ainsi le Fils dans les bras de Satan. On peut déjà être étonné que Dieu le Père identifie le Fils au péché, et voilà maintenant que l'Esprit Saint nous conduit le Seigneur dans le désert pour être tenté par Satan. Oui, Dieu le Père identifie le Fils au péché. Et qu'est-ce qui arrive juste avant le péché? La tentation. Le Christ est identifié au péché, il vient pour sauver les pécheurs. Voilà le Christ obéissant au Père. Et voilà que l'Esprit-Saint le conduit alors vers la racine de nos péchés, la tentation. Et pour toutes les fois où nous sommes vaincus par nos tentations, nous courbons l'échine et reconnaissons que nous sommes de pauvres pécheurs. Pour toutes les fois où nous sommes vaincus par nos tentations, eh bien voilà que le Christ est venu remporter cette victoire que nous n'arrivons pas à mener, ou imparfaitement. Voilà que le Christ est vainqueur des tentations, vainqueur du démon qui se déchaîne. Voilà que le Christ manifeste ainsi qu'il est venu non seulement pour être identifié aux pécheurs, qu'il est venu pour nous sauver du péché, pour nous délivrer de la mort, mais aussi pour nous délivrer du mal. Et en cela, la victoire du Christ dans le désert nous dit déjà de quel amour nous sommes aimés, nous dit déjà que le salut est accompli. Une fois que le Seigneur sort de son jeûne, de cette présence combattante dans le désert, petit verset après, saint Marc nous dit que le Christ part alors annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. « Les temps sont accomplis, dit le Christ. » Depuis les temps du péché originel, nous attendions que Dieu envoie le Sauveur. Voilà enfin le Messie arrivé parmi nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu l'identifie au péché, il vient pour sauver les pécheurs, vainqueur des tentations, et maintenant il vient reprendre, une fois que Jean-Baptiste est dans la prison, reprendre le ministère de Jean-Baptiste pour nous appeler, c'est le temps du carême, à la prière, à la conversion et à la pénitence. Trois réalités, que reprendra celle qui, non sur les bords du Jourdain, mais sur les bords du Gave, Notre-Dame de Lourdes, dans sa prédication, priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Pénitence, pénitence, allez à la source boire et vous laver. La Vierge est là pour nous rappeler que dans le désert de nos vies, dans le silence de ce monde qui se détourne de Dieu, au plus profond de nous-mêmes se trouve ce trésor incomparable dans notre âme, le Christ bien présent, présent à notre vie quotidienne, présent pour nous aider, tel le bon berger, à traverser nos épreuves. En ce 18 février, comment en notre Bigorre et ses quatre vallées ne pas faire mémoire de la troisième apparition, celle dans laquelle, pour la première fois, Bernadette entend cette voix douce de la belle dame. C'est ce jour-là qu'après la récitation du chapelet, Bernadette tend une écritoire à cette jeune demoiselle qui vient de descendre dans la grotte. Elle lui fait face. Elle a une écritoire qui vient de la petite fille, enfant de Marie, qui est là derrière elle. Son père est huissier. Elle a emprunté l'écritoire, le papier, la plume de l'huissier de justice, du greffier du tribunal. Parce qu'il faut que cette dame réponde à la question de la dame qui se tient derrière Bernadette, Madame Millet, qui se pose deux questions décisives. Qui apparaît? Que veut-elle? Il faut donc qu'elle dise déjà son nom. Mademoiselle, voulez-vous avoir la grâce de mettre votre nom par écrit, s'il vous plaît? Tout cela en patois, mes amis. Et la jeune demoiselle au rosaire de se mettre à rire. Voilà comment la Vierge va parler pour la première fois. Tout d'abord dans un grand éclat de rire. Un rire qui rejoint celui de Bernadette, qui comprend le ridicule de la situation. Quand bien même la dame écrirait son nom. Bernadette, scolarisée depuis un mois à l'âge de 14 ans, qui en est encore au béaba, comme l'on dit, des premières lettres de l'alphabet, n'aurait même pas été capable de le lire. Bernadette entre dans cette intimité avec la dame, dans cet éclat de rire, dans cette complicité qui ne se démentira pas, apparition, apparition. Et la dame de dire, ce sont ses premiers mots, « N'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire ». Alors la dame, qui a entendu la syntaxe de Bernadette, lui dit « Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Question qui nous est posée en ce temps du carême. « Voulez-vous avoir la grâce ? » ?»« Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette sent qu'elle est appelée, considérée. Elle m'a dit « vous », dira-t-elle. Elle m'a parlé comme une personne, parle à une personne, pas comme une moins que rien, une qui a descendu l'échelle sociale, qui est devenue pauvre jusqu'à atteindre la misère. Non, elle m'a parlé comme une personne, parle à une personne et elle m'a dit « vous ». Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Bernadette sent que cela l'engage. Elle ne va pas répondre « oui », figurez-vous. Elle ne va pas répondre « non ». Elle sent qu'elle est appelée « je le promets ». Alors, à cette promesse de Bernadette, la dame répond par une autre promesse. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Voilà les premiers mots dont nous faisons mémoire en ce 18 février, alors que nous honorons en notre Bigorre et en notre France Sainte Bernadette, Nostra Santa. Eh bien, nous rendons grâce, parce qu'à travers Bernadette, le sourire et les rires de la dame nous sont aussi destinés. Ce regard bienveillant, cette considération de la dame à notre endroit. Nous sommes ses enfants, elle est notre mère, elle nous dit « vous », elle nous considère. Elle nous parle comme à des personnes, pas comme à des petits-enfants. Elle nous parle pour nous conduire à la source qui n'est autre que son Fils. Et cette promesse qu'elle fait ce 18 février nous concerne chacun. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde en détresse. » De ce monde où ne manquent ni les épreuves, ni les maladies, ni les divisions, ni les querelles, ni les stérilités, autant de conséquences du péché que le Christ est venu vaincre. Mais qu'il reste encore une victoire définitive à accomplir en nous. Eh bien voilà que la dame vient nous rappeler qu'il y a la promesse de la vie de l'autre monde. C'est ce que nous devons viser en ce temps du carême. Puisse la bienheureuse Vierge Marie nous prendre sous son manteau, sous sa garde puissante, pour nous aider à aller auprès de son Fils, afin que nous puissions déjà, dans la prière, dans le jeûne, dans l'aumône, goûter un quelque chose du bonheur de ce monde. Ainsi soit-il.